France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
La semaine dernière, au téléphone sonne, une jeune femme a téléphoné. Émilie, une jeune femme sans comorbidité, sans soucis particuliers, avec une voix tellement fatiguée qu'on lui donnerait facilement 10 ans de plus que son âge. L'émission était consacrée à la fin prochaine de la pandémie, en tout cas aux espoirs qu'on avait le droit de formuler désormais. On le voit, pour certains, c'est vrai, pour d'autres, tellement loin. Émilie était là pour nous rappeler que pour certains, la fin, effectivement, c'est bien bien loin. La vie des Covid longs depuis leur contamination, parfois depuis mars 2020, c'est une fatigue extrême, c'est un essoufflement permanent, c'est monter les escaliers comme un exploit. Et après un effort qui paraissait ridicule avant, parfois on doit s'allonger pour s'en remettre. Ce sont aussi des maux d'estomac chez certains, le goût pas toujours revenu, des vertiges ou des douleurs articulaires. On sait identifier les Covid longs et aussi, on va en parler, chercher et trouver des solutions, des programmes de remise en forme. Bien sûr, c'est long, bien sûr, c'est difficile. Mais oui, ça existe. On tâtonne encore, en revanche, pour comprendre pourquoi, au fond, cette terrible injustice, pourquoi ce qui passera sur vous comme une mini-grippe que vous ne sentirez peut-être pas se traduit chez d'autres par des mois d'enfer. L'épidémie recule, c'est vrai, mais les Covid longs sont encore là. On leur consacre le téléphone sonne ce soir et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et bonsoir Émilie.
Oui, bonsoir.
C'est vous qui nous avez appelé la semaine dernière et vous redonner la parole n'est que justice réellement parce que vous nous aviez touché à ce moment-là. Racontez-nous comment vous allez. Si je me souviens plus bien, depuis mars 2020 que vous avez été contaminée.
Oui, c'est ça. J'ai été contaminée en mars 2020 et depuis je suis Covid long avec une multitude de symptômes très handicapants, une fatigue vraiment intense, un épuisement, quoi. Par exemple, j'ai un fauteuil roulant pour faire des petites sorties, comme aller au musée. Mmh. J'ai des maux de tête permanents. La dysphonie avec cette belle voix, mm-hmm, qui est des fois pire, des problèmes respiratoires, un brouillard mental.
Et est-ce que c'est toujours sur ce même mode, si je puis dire, Émilie, ou est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a eu des hauts et des bas, il y a des moments où vous avez le sentiment de reprendre pied, et puis paf, vous avez l'impression de revenir en arrière? Comment ça se passe depuis 2 ans pour vous?
Non, chez moi, c'est assez continu. Et je suis plutôt à avoir plus de symptômes au fil du temps, mais j'ai pas un jour de repos. Le moindre effort est une lutte. Et quand je parle d'effort, par exemple, parler, c'est un effort. Et par exemple, deux amis Covid longs depuis 2 ans aussi, qui me disent avoir l'impression d'être percutés par un camion chaque jour, tellement leur corps les fait souffrir.
Et alors, pour pas vous embêter d'abord, parce qu'on sent bien que la difficulté que vous pouvez avoir à respirer, qu'est-ce qu'on vous conseille, Émilie? Est-ce qu'il y a un parcours pour vous? Est-ce que vous faites des exercices? Que vous dit votre médecin? De ce point de vue-là, est-ce que vous avez le sentiment d'avancer un peu?
Alors, on essaye des choses. J'ai fait de la kiné respiratoire. On a essayer des traitements, beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce qu'on garde aussi un peu l'espoir comme ça? Mais il n'y a rien qui est probant et on a difficilement accès à des prises en charge multidisciplinaires. Mmh. Donc c'est compliqué. Et puis, en plus de la maladie, on doit aussi supporter l'isolement social, la reconnaissance, la non-reconnaissance de notre état qui est encore trop présente avec certains médecins ou des institutions comme la CPAM. On est beaucoup à pas pouvoir ou avec difficulté travailler avec des risques de précarité aussi.
Et on va y venir, effectivement, et notamment, et c'est important ce que vous dites, à l'idée d'affection longue durée ou pas, ce qui doit officiellement être inscrit. Je vous remercie mille fois, Émilie. Vraiment, merci beaucoup. On vous souhaite bon courage, on vous embrasse. Merci pour avoir témoigné, nous avoir emmené aussi au milieu des gens qui souffrent de Covid long, parce que je peux vous dire que le standard en est plein aujourd'hui de gens qui ont vraiment envie de témoigner. Je vous présente nos invités, bien sûr, autour de cette table. Nicolas Barizien est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef du service médecine et réadaptation à l'hôpital Foch à Suresnes. Vous avez notamment écrit « Covid long, comment s'en sortir ?» chez Marabout en 2021. On s'est déjà croisés... nous tous autour de cette table.
On a fait une émission.
Pour parler de la même chose. Et c'était il y a presque un an, peut-être un peu plus même. Je vous salue aussi, Dominique Salmon-Céron. Vous êtes infectiologue à l'Hôtel Dieu à Paris. Il y en a beaucoup d'Émilie qui nous appellent là. C'est des gens que vous avez déjà croisés, que vous voyez beaucoup. Moi, je suis toujours frappée par l'injustice incroyable, en fait. Est-ce qu'on sait dire aujourd'hui pourquoi il y a des gens comme Émilie et comme d'autres qui se prennent un camion tous les jours, comme elle le dit et comme on l'entend?
Alors, vous avez bien utilisé un terme là qui me plaît bien, c'est la terrible injustice,
ouais.
Parce que à la fois c'est ce que vivent les patients, qui la plupart du temps sont avant leur infection à Covid aigu en bonne santé, des gens plutôt jeunes, plutôt actifs, et ça leur tombe dessus. Ils font une infection aiguë, puis ils se disent bon bah voilà, comme une angine, dans 15 jours c'est fini, et puis c'est pas fini. Et puis, la terrible injustice, elle est aussi du fait que, ben, nous, le corps médical, on avance, mais on n'a toujours pas de solution miracle à leur proposer. On a plein de petites solutions, de plus en plus de petites solutions, mais on n'a pas la potion magique. Et malheureusement, comme toute maladie, il y a des formes bénignes, des gens qui vont guérir en 6-8 mois, des formes intermédiaires, des gens qui vont guérir plutôt en un an, et puis malheureusement, il y a des formes un peu sévères, de gens qui, à bientôt 2 ans, n'ont pas beaucoup évolué, malgré tout ce qu'ils font et tout ce qu'on essaie de faire pour eux.
Effectivement, il y en a pour qui ça bouge, il y en a pour qui, donc, qui ont un Covid long, mais qui effectivement commencent doucement à se résorber, si je puis dire, Dominique Salmon-Céron, puis d'autres qui stagnent, en fait.
Oui, le témoignage d'Émilie doit nous rendre humbles, en fait.
Oui.
Parce qu'on a fait beaucoup de progrès, mais il reste encore beaucoup à faire, et on a un petit pourcentage de patients, comme Émilie, qui vont pas mieux. Très peu s'aggravent, heureusement. Globalement, les patients, quand même, vont vers l'amélioration. Mais c'est beaucoup trop lent. Mmh. Et je comprends qu'ils assaillent votre numéro et qu'ils soient impatients, c'est vrai. Et pour répondre à votre question de la terrible injustice, on commence à voir un peu, quand même, quels sont les facteurs de risque de faire un Covid long. C'est souvent des gens qui n'ont pas fait un Covid ayant nécessité une hospitalisation, mais un Covid avec beaucoup de symptômes. Mmh. C'est pas que ceux qui ont fait juste un petit rhume ou un peu de tout. C'est souvent des gens qui, au Covid initial, ont été pas bien, ont eu mal à la tête, la diarrhée, des vertiges. Et puis, c'est aussi, il y a pas mal de gens qui ont un terrain allergique ou avec des maladies auto-immunes. Et puis, quelques papiers sortent pour dire que ça serait des gens qui développent pas une bonne réponse immunitaire aussi, des taux d'anticorps plus bas.
Donc il y a beaucoup de points d'interrogation toujours.
Il y a beaucoup de points d'interrogation sur ces facteurs de risque de faire un Covid.
On a l'impression que vous avez un peu réduit l'entonnoir en fait, mais pas beaucoup en fait pour savoir quel est le terrain favorable.
Et puis surtout si on fait le parallèle par rapport à l'émission qu'on a faite il y a plus d'un an, c'est que il y a plus d'un an on avait des hypothèses diagnostiques et aujourd'hui certaines équipes en France et beaucoup dans les pays anglo-saxons ont suivi ces pistes et commencent à nous fournir quelques réponses. Et ça va nous permettre d'avancer dans les mois, les années qui viennent.
Alors on va y aller avec les réponses au fil des témoignages. Bonsoir Sarah.
Bonsoir.
On vous écoute Sarah.
Oui, alors je suis assez émue d'intervenir ce soir. Docteur Barizien, il se trouve que au début...
Bonsoir Sarah.
Voilà, j'avais adressé par mail, vous m'aviez... de la cortisone m'avait été prescrite. Finalement, ayant contracté d'autres symptômes, on m'a déconseillé de suivre votre traitement. Ensuite, quelques mois après, il s'est avéré qu'il pouvait avoir le fait que cela puisse entraîner des contre-indications, ce soit pas vraiment recommandé. Bref, ça fait 16 mois. Vous faites une émission pour mon anniversaire des 16 mois ce soir. Voilà, merci beaucoup entre guillemets. qu'est-ce que je pourrais vous dire? Le témoignage d'Émilie, à qui je transmets toutes mon, qu'est-ce que je pourrais dire?
Bah, votre sympathie,
votre sympathie, oui. Votre amitié, vous pouvez y aller.
Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voulez me poser des questions. Si
non, dites-moi vous. Vous êtes reconnue, j'imagine, dans le témoignage d'Émilie. Et en même temps, moi, j'ai l'impression, vous allez nous contredire ou pas, que il y a autant de Covid long que de Covid est long, en fait. Enfin, que chacun a quelque chose qui est plus mis en avant, qui le fait plus souffrir. Il y a une espèce de dénominateur commun en termes de respiration, mais sinon, chacun son symptôme particulier, en quelque sorte. Vous, c'est où, Sarah? Où est-ce que vous avez le plus souffert? Où est-ce que vous souffrez toujours?
Alors, le symptôme le plus significatif, c'est cette fatigue écrasante. C'est cette fatigue qui ne laisse pas de répit et qui nous aplatit comme un rouleau compresseur. C'est l'hypotension, une tension. Moi, j'ai une tension qui tourne aux alentours de 8,5-9,5. Parfois 10,5, bon, c'est remonté des fois à 13,5, ce que j'avais jamais eu. Bon, très très rarement, une ou deux fois. Ma tension habituelle était de 11,6, un chiffre dont je me souviens. Je me compare un petit peu à une petite fourmi, parce que j'étais une personne très active et je suis devenue un petit escargot. Donc vous me posiez la question en termes de symptômes, c'est cette fatigue, c'est une hypotension. C'est ce qu'on appelle aussi l'encéphalomyalgie. Alors je l'ai écrit, j'ai tout. Encéphalomyélite myalgique. Voilà, fatigue qu'on appelle communément la fatigue chronique. Des symptômes qui se manifestent depuis peu, peut-être parce que je suis isolée socialement vraiment beaucoup. Par la force des choses, il faut quand même aller à la poste pour poster des courriers, imaginez-vous, à l'assurance maladie. Et alors là, qu'est-ce qui se passe quand je me mets dans une file d'attente? J'ai des vertiges, j'ai le cœur qui se met à accélérer et malaise. Heureusement, des personnes m'ont aidé à m'asseoir. Donc ça, c'est nouveau. Voilà. Donc la tachycardie aussi, que je n'ai pas encore citée.
Merci, docteur Barizien. Vu que vous leviez le doigt.
Oui, bonsoir Sarah. Et le témoignage de Sarah est très très intéressant. Il va ouvrir la discussion sur les thérapeutiques. Donc effectivement, dans ces cas de Covid long, avec des patients qui ont des douleurs musculaires, articulaires, de la fatigue, ça ressemble à certaines formes de maladies auto-immunes. Et effectivement, on a essayé et de la corticothérapie, parce que ça fait partie des traitements qu'on utilise dans ce type de maladie, avec plus ou moins de réussite. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas très bien quelle est la dose qu'il faut donner, quelle est la durée qu'il faut donner. Mais ça ouvre le champ de cette dysimmunité, de comment on traite la dysimmunité, par de la corticothérapie, mais aussi par d'autres thérapeutiques, dont vous parlera Dominique après. Le syndrome de stop tachycardie posturale orthostatique, c'est-à-dire que quand on se met debout, on a le cœur qui accélère comme un fou et la tension qui baisse. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on sait soigner, mais malheureusement, les médicaments qu'on utilise sont des médicaments qui sont assez difficiles à utiliser. Et on peut, dans le cas des Covid longs, alors que le traitement habituel est de 4 à 6 comprimés par jour, monter jusqu'à 9 comprimés par jour, bien entendu, avec les effets secondaires de ces thérapeutiques. Et la dernière chose, pour faire le parallèle et juste ouvrir un champ sur l'encéphalomyélite myalgique, donc il y a des publications justement aux États-Unis qui essaient de comprendre pourquoi il y a cette fatigue chronique et qui s'intéresse à des choses toutes petites dans nos cellules, qui sont les usines à énergie, qui sont les mitochondries. C'est une piste de recherche.
Mais du coup, est-ce que ça veut dire, Dominique Saint-Montséron, que, comme je le disais tout à l'heure, chaque Covid long est un Covid long particulier? Il y en a certains qui feront plus de tachycardie, d'autres plus de fatigue, d'autres, etc. Est-ce que chaque cas est un cas particulier? C'est ça aussi qui rend votre travail encore plus compliqué?
Mais non, je ne crois pas, si vous voulez. Okay. Effectivement, l'année dernière, on vous a peut-être dit ça. Et effectivement, quand les patients sont venus au départ, il y avait beaucoup de symptômes. Oui. Maintenant, on a analysé les choses. On se rend compte que tout le monde a un profil similaire qui ressemble beaucoup à ce qu'on connaissait avant, qui s'appelait le syndrome de fatigue chronique, mais en plus grave. Et donc, il y a des... Même ces deux témoignages montrent des choses similaires. Il y a toujours ce manque d'énergie, cette fatigue très importante à faire presque des malaises des fois. Il y a très souvent un essoufflement. Il y a extrêmement souvent des troubles neurologiques, neurocognitifs, c'est-à-dire difficulté à se concentrer, à faire plusieurs tâches, troubles de mémoire, vertiges. Donc finalement, le profil, il est quand même assez assez clair maintenant, quand même différent de maladies psychiatriques ou autres qu'on a pu quelquefois supposer. Hein, c'est vraiment quelque chose de clair. Donc voilà. Et on a fait aussi beaucoup de progrès malgré tout sur les traitements symptomatiques. On ne sait pas encore complètement à quoi est dû le Covid, mais on a des hypothèses qui commencent à maintenant se concrétiser. Mais on peut faire quelque chose. Tous les médecins généralistes sont des bons médecins. Ils peuvent voir que tel malade a ça, on peut donner un traitement. S'il a, par exemple, mal à l'estomac ou une gastroparésie, ou s'il est soufflé, on peut faire la rééducation respiratoire. S'il a des douleurs, on peut donner des anti-inflammatoires. Donc, il y a quand même des traitements symptomatiques qui marche. Ça n'améliore pas les patients à 100%, je sais, il faudrait vraiment le traitement étiologique. Mais déjà, on peut aider beaucoup les patients.
Est-ce qu'on peut rassurer les gens qui nous écoutent en disant, pour certains, effectivement, vous êtes vraiment encore au milieu du guet, mais on sait qu'à un moment, même si c'est très long, ça va finir, ou c'est quelque chose qu'on ne peut pas prononcer, qu'on ne peut pas dire, ça?
Alors, ce qu'il faut dire, c'est, et c'est pour ça qu'avec Laurent Usan et Marie-Pierre Samitier, on a écrit le livre, c'est qu'il ne faut pas rester dans son coin. À ne rien faire, parce qu'on sait que de toute façon, les symptômes vont s'enquister. Donc, il faut être... faut agir. Agir sur sa fatigue, agir sur son problème respiratoire, agir sur son déconditionnement, agir sur sa perte de poids. Donc, il faut une prise en charge multidisciplinaire.
Donc, de la nutrition, des activités, etc.
Des activités physiques qui doivent être, on en discutera peut-être, qui doivent être vraiment adaptées au cas de chacun. Ouais. Mais surtout, il ne faut pas rester dans son coin en se disant « ça va passer ». Non, il faut être actif, il faut se prendre en charge.
Est-ce que
et ça s'apprend, oui, en fait. Hein, ça s'apprend. Donc les médecins, nous, on a cette responsabilité d'apprendre aux patients à s'autogérer, à voir ce qu'ils peuvent faire, à économiser leur énergie, à l'utiliser à bon escient.
Et est-ce que vos confrères le savent? C'est-à-dire, parce que là, tous les gens qui nous appellent, qui sont des quatre coins de France, est-ce que s'ils vont voir leur généraliste, le généraliste saura leur dire ces choses-là? Ou est-ce qu'il y a un vrai travail à faire de ce point de vue-là?
Il y a beaucoup de progrès. Maintenant, je trouve que les généralistes sont bienveillants. Maintenant, ils ont conscience que le Covid long existe. Ils sont donc bienveillants pour les patients. Ils analysent les choses. Il y a des recommandations de la Haute Autorité de Santé. On est déjà à la deuxième version auquel les médecins peuvent se référer. Mais quelquefois, ils sont vraiment débordés. C'est pour ça que le généraliste ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des plateformes multidisciplinaires et elles sont insuffisantes aujourd'hui, très insuffisantes.
Est-ce qu'il y a aujourd'hui, autant de Covid long, donc avec Omicron et précédemment avec Delta et avec la souche de base, est-ce qu'il y en a autant aujourd'hui qu'il y en avait ?
Plutôt moins.
Est-ce que ça a un lien avec les variants ou pas du tout, en fait ? Est-ce qu'on peut dire le variant Omicron génère un nombre très petit de Covid long, Delta un peu plus, le précédent un peu plus, ou est-ce que ça, on ne peut pas le dire ?
Aujourd'hui, on ne peut pas le dire, et ce qui est important, ce que disait Dominique, c'est que les patients qui vont faire un Covid long sont des gens qui sont très très symptomatiques.
Okay.
Et les patients très très symptomatiques qui sont passés sous les radars, c'était plutôt les premières vagues. Aujourd'hui, les patients très symptomatiques sont identifiés, sont mieux pris en charge.
Le virus initial semblait plus virulent. Ouais. Je ne dirais pas plus neuro-invasif, mais quand même plus virulent. Et
c'est lui qui a généré.
On a moins de risques.
Parce que c'est intéressant, il y a beaucoup de témoignages qu'on reçoit qui sont des gens qui ont été contaminés effectivement première vague. Donc c'est pour ça que je vous posais la question. Fabrice est avec nous. Bonsoir Fabrice.
Allô? Oui, bonsoir.
On vous écoute Fabrice. Oui, absolument.
Oui. Oui, donc je suis le papa d'Anaël qui aura 24 ans demain. Elle est étudiante à Bordeaux, diagnostiquée Covid long. Survenu, on va dire, premier symptôme quelques jours après la deuxième dose du vaccin. Au mois d'août l'année dernière, donc j'en ai suivi deux épisodes grippaux, début août et fin août, et une grosse partie des symptômes qui ont été décrits précédemment, donc avec majoritairement une fatigue incroyable, le syndrome d'intolérance orthostatique, là, avec une tachycardie aussi tout aussi incroyable. Donc ma fille était, je précise, très dynamique, sportive, elle était capable de faire 100 km à vélo dans une même journée. Aujourd'hui, elle vit enfermée dans son studio, ravitaillée par des livreurs à vélo. Elle peut plus s'alimenter normalement parce que ça provoque son alimentation précédente provoque aujourd'hui des réactions allergiques très fortes. Donc elle expérimente en mode d'autogestion les aliments qui réagissent et qui réagissent pas. Chaque sortie est un supplice physique incroyable. Il oblige derrière à beaucoup, beaucoup de repos. Elle essaye tant bien que mal de suivre ses cours à distance pour terminer ses études. Donc j'ai plusieurs questions. La première, donc, quand les autorités sanitaires vont-elles reconnaître cette maladie en tant qu'affection longue durée? Parce que là, ma fille, ça fait plus de 6 mois qu'elle est malade. Et il semblerait que les autorités sanitaires aient du mal à reconnaître ou à rajouter cette affection comme une affection longue durée. Donc vous imaginez bien que tout ça, ça génère des frais, et etc. Deuxième question, même si il y a peut-être eu des progrès, je remercie notamment les médecins qui l'ont prise au sérieux, il y a encore un certain nombre de médecins qui ont tendance à culpabiliser les malades et à psychologiser leurs symptômes. Donc, comme s'il y avait un déficit d'information, une forme de déni de ces symptômes. Et je pense qu'en dehors des spécialistes comme vos invités, il y a encore finalement en province peu de médecins qui sont bien orientés, en tout cas de ce point de vue-là. Deux dernières questions. Quand va-t-on organiser la prise en charge de ces malades en centres médicaux pluridisciplinaires, hein, en équipe pluridisciplinaire, comme ça existe pour le cancer ou pour d'autres maladies longues? Et du coup, quand est-ce qu'on va enfin soigner ces malades au lieu de les abandonner à leurs difficultés et leurs familles avec, hein? Je précise que, évidemment, tous ces symptômes sont très impactants aussi pour notre famille. Pour ma part, j'ai cessé de travailler pour essayer d'aider ma fille, tant bien que mal, même si sans être médecin, etc., mais en se tenant au courant des recherches qui sont faites, notamment au niveau international, pour essayer de guider les analyses qui sont faites pour essayer de comprendre ce qui se passe dans son organisme.
Merci beaucoup Fabrice, on va prendre les questions l'une après l'autre et peut-être commencer par la fin d'ailleurs, par vous l'avez un petit peu évoqué, la psychologisation des symptômes, effectivement le fait qu'on a beaucoup entendu « oh mais c'est dans la tête », vous disiez tout à l'heure « c'est en train de passer ». Visiblement pas tant que ça. Il reste encore de la pédagogie à faire auprès des médecins pour leur expliquer comment ça marche le Covid long et comment ils peuvent aider les patients.
Mais on vous remercie beaucoup Fabienne Saint-Esch justement de participer à ça parce que il faut diffuser l'information à la décharge de nos collègues. C'est difficile d'aider quelqu'un quand on ne comprend pas d'où vient la maladie et qu'on n'a pas de solution standardisée à proposer. Donc il y a aussi des fois une mise en difficulté des médecins parce que c'est une maladie qui est difficile à appréhender et pour laquelle on aimerait avoir des solutions un petit peu plus faciles. Les solutions ne sont pas compliquées, mais elles sont complexes parce qu'elles sont multidisciplinaires.
L'affection longue durée que réclament tous les gens qui nous appellent, à quel moment est-ce qu'on est sur le chemin de considérer que le Covid long est une affection longue durée? Il y a tellement de choses qui sont enclenchées, ne serait-ce que en termes de sécu, etc.
Le Covid long est d'un diagnostic difficile. Hein. C'est pas comme l'hépatite C, on a une sérologie positive, une PCR positive, c'est l'hépatite C. Donc pour les Covid longs sévères, le médecin peut très bien faire une demande d'ALD et elle est obtenue. Donc on peut pas dire que ça n'existe pas, c'est pas dans la liste des 30 maladies ALD, mais on peut tout à fait l'obtenir et il suffit juste de se mobiliser pour ça.
Donc il faut le demander en fait.
Voilà, les patients demandent.
Donc là aussi, c'est rôle des patients, rôle du médecin généraliste.
Voilà,
il faut le demander.
Il faut le justifier, mettre des éléments. Mais si le médecin est persuadé que le patient a un Covid long, même s'il a une sérologie négative, il va obtenir une ALD. Même ça peut aller plus loin. On peut avoir une reconnaissance de maladie professionnelle pour les soignants, une reconnaissance adulte handicapé pour les personnes qui vraiment sont dans l'incapacité de reprendre leur travail. Il faut le justifier. Bien sûr, il va y avoir des contrôles parce que c'est pas si simple le diagnostic.
Et dans la justification, ce qu'on décrit dans la prise en charge multidisciplinaire dans le livre, c'est il faut qu'il y ait un bilan cardiologique qui va donner des éléments. Il faut qu'il y ait un bilan neuropsychologique qui aujourd'hui, effectivement, on en est très content que les orthophonistes qui savent faire ça aussi puissent faire des bilans. Et on va petit à petit accumuler des éléments de preuve. Qui sont des éléments de preuve indirects, mais qui sont des éléments de preuve constitutifs d'un dossier pour avoir une reconnaissance en ALD.
Quand Fabrice parle de centres médicaux, effectivement, qui seraient pluridisciplinaires, j'imagine qu'on se dit ce serait évidemment formidable.
Oui, là, il a vraiment raison. Il y a eu des directives du gouvernement qui datent déjà de 6 mois, qui ont mandaté les ARS pour créer ces centres, et ça va pas assez vite. Donc, je pense que c'est en cours d'organisation. C'est sûr que ça va être très utile jusqu'à ce qu'on trouve un traitement traitement, parce que j'espère qu'à un moment donné, on pourra trouver un traitement. Mais en attendant, il faut multiplier ses entrées. Par exemple, Anaëlle, c'est pas normal.
Qu'elle soit toute
Fabrice,
seule.
Qu'elle soit toute seule. Ouais. Elle devrait. Il y a des choses à faire pour elle. Moi, je ressens qu'elle pourrait bénéficier de certains traitements symptomatiques déjà dès maintenant.
C'était le sens de la question de Linda, justement, ces fameux centres. Et justement, on va l'écouter. Bonsoir, Linda.
Bonsoir.
On vous écoute.
Oui, en fait, je voulais savoir, parce qu'on court à droite, à gauche, faire des examens pour les vertiges, pour plein de choses, en fait. Mais c'est vrai que ça fait depuis le mois de mars, et peut-être même avant, parce qu'on ne l'avait pas diagnostiqué comme Covid, mais il est possible que je l'ai eu à la première vague, parce que j'ai été prise d'énormes vertiges, je perds de goût, et etc. Mais bon, on n'a pas fait le lien. Et puis au mois de mars de cette année, de l'année dernière, enfin de l'année qui vient de s'écouler, Covid, et suite à vaccination ou en parallèle avec la vaccination, théoriquement je l'avais sans savoir, je l'ai rattrapé avec juste avant de refaire une troisième vaccination. Bref. Et donc la question maintenant, elle est que je suis toujours très 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 fatiguée et puis plusieurs autres symptômes, et je voulais savoir justement la question qui a été posée par le monsieur, s'il y a des centres ou quand vont avoir la création de ce centre pluridisciplinaire où on pourra aller être prise en charge soit en hospitalisation de jour, soit en hospital, enfin je sais pas si c'est le terme hospitalisation qu'il faut prendre, mais enfin rentrer là-dedans, comme une cure, comme un je sais pas quoi en fait, et de façon à nous aider. Et est-ce que dans ces endroits comme ça, est-ce que c'est possible que des gens avec différents symptômes, comme on en a tous des différents, même s'il y en a plusieurs qui sont communs, quand on a ces crises de fatigue, et on peut aussi s'arrêter et aller se reposer, parce que comme disait quelqu'un, il est impossible de lutter contre cette fatigue quand elle arrive. Voilà, c'est ça.
Docteur Barizien, merci beaucoup, Linda.
Alors, pour faire un point que tout le monde, enfin que les auditeurs comprennent bien aussi, l'hôpital de jour, c'est juste une forme de prise en charge. Donc, par exemple, dans le centre que je dirige, on fait des hôpitaux de jour de bilan qui permettent de dire, voilà, vous avez besoin de faire ce type de rééducation, mais que vous allez devoir faire à l'extérieur. Et puis, il y a des structures qui sont soit des centres de rééducation, soit effectivement les établissements thermaux s'y sont mis, qui prennent en charge les gens de manière quotidienne, ou de manière trois fois par semaine, pour faire cette rééducation multidisciplinaire. Et là, effectivement, c'est aussi de l'hôpital de jour, mais qui n'est pas dans la même structure, qui est dans une structure qui fait de la rééducation au quotidien.
Ce que j'entends aussi dans le témoignage de Linda, c'est qu'elle a été plusieurs fois réinfectée, en fait. Est-ce que ça joue aussi ? Est-ce que c'est un terrain ? Est-ce qu'on peut parfois faire un Covid assez anodin, finalement, et un Covid long sur une réinfection ?
Oui, on se demande si c'est pas un terrain, vous voyez, parce qu'effectivement, j'ai plusieurs patients qui, quand ils ont fait des réinfections, parce que c'est pas parce qu'on a un Covid long qu'on est protégé contre un variant. On fait une réactivation de leurs symptômes de Covid long. Mais c'est pas toujours, hein. Il y a des gens qui ont fait une infection à Omicron très banale et d'autres qui ont eu une réactivation. Certains autres, comme on a entendu dans le témoignage, ont des réactivations après la vaccination. Donc ça, faut être vigilant. Quand on a un Covid long, c'est pas la peine d'avoir 3 doses, hein. On est vraiment dans les clous si on a fait 2 doses. Et si on a fait des symptômes très sévères après la première dose, il faut en parler au médecin. Il faut pas non plus s'acharner à vouloir faire 3 doses.
Justement, du coup, il y a une question là sur franceinter.fr qui dit « J'aimerais poser la question suivante à vos invités. Est-ce que depuis la vaccination, notamment la 3e dose, les formes de Covid long sont moins fréquentes et ou plus ou moins graves ? Ou est-ce qu'il n'y a pas de relation de cause à effet ni d'aucune sorte, en fait ?
Moi, j'ai l'impression quand même des patients qu'on est amené à prendre en charge, qu'il y a quand même beaucoup moins de formes de Covid long qui nécessitent une prise en charge un peu hospitalière parce qu'ils sont relativement sévères depuis mai-juin 2021. Donc, est-ce que c'est l'effet de la vaccination ? Est-ce que c'est le variant nouveau ou pas ? Quand même, on a beaucoup moins de patients qui ont ces symptômes prolongés après Covid, puisque c'est la terminologie officielle, depuis l'été 2021, on en a beaucoup moins.
Quand on fait un Covid long, on n'a pas forcément été hospitalisé, on n'a pas forcément. Donc, est-ce qu'on fait vraiment la distinction entre forme grave du Covid et Covid long ? Est-ce qu'on est dans deux couloirs qui sont complètement différents ?
Oui, les patients sont un peu différents. Les patients Covid graves, ce sont plus souvent des hommes et la moyenne d'âge est de 61 ans. Les patients Covid longs, ce sont plus souvent des femmes et la moyenne d'âge est plutôt 45 ans. Mais il y a un recoupement. Des patients qui ont fait une forme grave peuvent aussi, de temps en temps, faire un Covid long. Et d'ailleurs, les patients qui ont fait une forme grave, ils vont garder des symptômes beaucoup plus longtemps. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes symptômes, mais ils gardent souvent une fatigue, des signes pulmonaires, mais moins peut-être ces signes neurologiques. C'est un peu différent.
Caroline est avec nous, pardon. Caroline, on vous écoute.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Du coup, je suis un petit peu désolée, vous avez répondu à pas mal de mes questions.
Tant mieux.
Tant mieux, et c'est pas grave, allez-y.
J'accompagne des personnes qui assez rapidement, donc qui sont fragilisées, qui assez rapidement vont parler d'un Covid long dès fin 2020, en fait. Et effectivement, la question de la multidisciplinarité, je ne sais pas si le mot existe, est pertinente parce que il y a une errance médicale à ce moment-là qui faisait que les médecins n'étaient pas suffisamment informés ou en tout cas que les traitements ne marchant pas, il n'y avait pas de suite donnée. Donc c'est pour vous dire que principalement, je voulais m'assurer auprès de vous de quelle information donner aux personnes qui souffrent de Covid et qui pourraient me dire demain, mon médecin ne m'entend pas ou... personne m'entend ou personne m'écoute.
Eh ben, on va vous répondre tout de suite, Caroline. Dominique Salmon-Séron.
Oui. Oui, alors Caroline, dans le groupe de la Haute Autorité de Santé, on s'est très rapidement rendu compte que le nombre de patients Covid long était très important et qu'on pourrait pas accueillir tout le monde dans des plateformes multidisciplinaires qui n'existaient pas. Donc notre idée a été qu'il fallait informer les généralistes et que tous les généralistes soient capables de prendre en charge les patients. Et réserver les plateformes multidisciplinaires aux patients qui avaient des formes sévères. Donc là, on en est à ce stade, ça n'a pas été assez vite, je suis d'accord, où les médecins généralistes appréhendent le problème, pas partout, je suis d'accord, c'est pas encore... Mais les plateformes multidisciplinaires qui regrouperont donc différents spécialistes ou les réseaux entre spécialistes en ville, si c'est pas forcément une plateforme où les gens viennent à l'hôpital, ça s'est pas encore tout à fait mis en place. Mais c'est en train de l'être. Et vous savez, vous avez vu qu'il y a ça a même été légiféré puisqu'il va y avoir une plateforme de référencement. Les patients vont pouvoir s'inscrire et ensuite être orientés. Et d'ailleurs, dès maintenant, des patients qui ne trouvent pas de solution peuvent appeler l'agence régionale de santé de leur région. Et ils doivent pouvoir être orientés. C'est vraiment une des missions de l'agence que d'orienter les patients qui ne trouvent pas de solution.
Il faut être proactif. Hein,
oui, il faut que les patients soient proactifs.
C'est vraiment l'un des messages importants
modérer,
de la soirée.
Mais aussi pour s'occuper de soi.
Et aussi le travail qui est fait par les ARS aujourd'hui, c'est de diffuser l'information et de la formation auprès des paramédicaux, puisque les médecins font des diagnostics, mais ceux qui soignent vraiment les patients, en l'occurrence, ce sont les paramédicaux. C'est les diététiciennes, c'est les kinésithérapeutes, c'est les orthophonistes, c'est les psychothérapeutes. Et donc, c'est important surtout aussi de diffuser l'information auprès de ces professionnels-là qui vont être des fois même en première ligne. C'est-à-dire que les patients ont entendu parler qu'il fallait faire de la kinésie respiratoire et des fois, ils vont voir leur kiné d'emblée en disant « j'ai un Covid long, j'ai du mal à respirer, faites-moi de la kiné respiratoire. Mmh. Et puis, j'irai voir mon médecin. » Voilà. Donc, il y a aussi la courroie de distribution des paramédicaux qui sont vraiment les soignants de première ligne aussi, qu'il faut accompagner. Ouais. Là, les ARS font ces formations-là.
Marie-France, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Allez-y, on vous bonsoir écoute, Marie-France.
Ma question est un peu similaire aux questions qui ont été posées. Moi, j'ai une leçon de l'arthrite ankylosante, donc j'étais stabilisée grâce à un traitement immunosuppresseur. Et en décembre, j'ai attrapé la Covid. L'ARS ne m'a pas appelé, donc j'ai pas eu de contact avec les médecins, les miens étaient en vacances. Et après coup, j'ai eu plusieurs problèmes, des douleurs articulaires énormes, de plus en plus de problèmes à marcher. Et en fait, d'habitude, quand j'ai des crises inflammatoires avec les repos, ça passe. Et là, à l'inverse, malgré le repos, là, ça fait 6 semaines que je suis chez moi et les douleurs ont continué à augmenter. Donc, j'ai été prise en charge par ma rhumatologue et mon généraliste. Donc, avec traitement anti-inflammatoire, ça n'a pas fonctionné. Acupan, ça n'a pas fonctionné. Ensuite, corticoïde, neurontin, ça n'a pas fonctionné. Infiltration sous scanner, je ne peux toujours pas marcher. Et en fait, ma question, c'est par rapport à la prise en charge. Parce que si mon généraliste, si mon rhumatologue n'ont fait de lien entre la Covid et mes douleurs articulaires, comme j'ai une SPA, on a considéré que,
Excusez-moi, est-ce que vous avez un traitement de fond pour votre SPA?
Oui, oui. J'ai un traitement immunosuppresseur.
D'accord.
Donc,
Alors donc,
bah, est-ce qu'on peut faire le lien? Est-ce que c'est compliqué de faire le lien? Parce que c'est ça qu'elle demande, Marie-France. Alors, mon médecin l'a pas fait pour l'instant.
C'est difficile de faire le lien, surtout que vous avez l'air de ne pas avoir de chance, puisqu'on a plutôt l'impression dans les cohortes de patients immunodéprimés traités. Alors, enfin, vous n'êtes pas immunodéprimé, vous avez un traitement immunomodulateur qu'on craignait beaucoup. D'avoir des formes de Covid graves et des formes de Covid longs, et globalement on est plutôt rassurant. Donc malheureusement vous avez pas de chance avec votre Covid long, mais effectivement vous avez quand même eu les traitements qui sont recommandés d'essayer.
Maintenant, il y a probablement d'autres anti-inflammatoires à tester. Ouais. Hein, vous n'avez pas tout testé. Il faut effectivement demander à vos médecins de faire le lien, de peut-être vous adresser vers un spécialiste pour essayer de voir ce qu'on peut faire. Il y a encore des choses à faire. Hein.
Je voudrais qu'on écoute, pardon Marie-France, parce qu'il nous reste très peu de temps, je voudrais qu'on écoute Loïc pour terminer, parce que Loïc a quand même un message important à nous transmettre. Bonsoir Loïc.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui. J'écoute avec attention votre émission. Alors, je vais aller assez vite pour décrire ma situation. Moi, j'ai été Covidé très tôt, en mars 2020, au tout début, et à un moment où, en fait, on m'a pas tout de suite détecté comme étant Covidé, enfin, pas dans les jours. Alors, j'ai eu des symptômes extrêmement bizarres, des douleurs articulaires comme j'en avais jamais eu dans ma vie. Alors, j'avais 48 ans à ce moment-là, j'avais jamais eu de problème, j'ai pas de problème de santé chronique, j'avais absolument rien eu. Et là, j'ai développé des formes de difficultés respiratoires, peu de tout, assez bizarrement, un peu de fièvre comme tous les gens qui ont été Covidés, je pense, et surtout au début. Mais alors, des difficultés respiratoires avec un taux de saturation relativement faible, au bord de l'hospitalisation. J'ai jamais été hospitalisé. Et puis alors après, ça c'était en mars 2020, j'ai été arrêté pendant 3 semaines, le temps de me remettre. Et après, j'ai repris mon travail et j'ai eu des difficultés, mais une fatigue chronique énorme, des douleurs. Et puis vraiment, j'avais l'impression d'avoir 80 ans. Et ça a duré, et avec des répliques fortes de fatigue très, très intense en juillet et en octobre. J'en ai discuté avec mon généraliste et l'idée globale a été, écoutez, on est au tout début, on sait pas trop où on en est. Alors, il n'était pas dans le déni, mais il m'a dit, on va traiter ça comme autre chose, c'est-à-dire qu'on va se reprendre en main. Alors, j'avais une bonne surcharge pondérale, on va pas dire de bêtises. Et j'ai fait du sport et j'ai repris de la kiné. Alors, en plus, je me suis bloqué le dos. Enfin, il y a tout un événement.
Pardon, Loïc, de vous presser, il faudrait arriver à l'épilogue parce que le temps presse, mais je voudrais savoir, au bout du compte.
C'est que finalement, au bout de 8 mois, avec une perte de poids de pratiquement 10 kilos, et en faisant de la kiné, en faisant plein de choses, et ben ça s'est passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai retrouvé ce qu'était ma forme physique il y a 2 ans. Et donc, je pense, enfin, j'écoute tous les conseils que donnent les médecins depuis le début et les différents témoignages, c'est tout à fait possible. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de global à mettre en place pour aller mieux, mais c'est jouable. C'est-à-dire que c'est ça, le message, il est positif.
Merci Loïc, merci pour ce message positif. Encore une fois, pour ceux qui nous écoutent, c'est important et ce sera vraiment notre conclusion à tous, Nicolas Barizien, mais ça arrive, ça existe.
Il faut être proactif, faut pas se rester dans son coin, faut à la fois attendre de la médecine, mais aussi attendre de soi-même.
On vous souhaite tous bon courage, vraiment, parce que pour certains, c'est très très compliqué. On est ravis d'avoir fait cette émission. Merci beaucoup pour vos très nombreuses questions. Portez-vous bien.